monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 17 avril 2024. Les États-Unis accusent les dirigeants politiques sud-soudanais de n'avoir pas respecté les normes nécessaires à la tenue d'élections honnêtes et pacifiques en décembre. En Tunisie, la première ministre italienne Giorgia Meloni plaide pour une nouvelle approche sur l'immigration. Le Burundi et l'ONU lancent un appel à une aide financière face aux effets dévastateurs des pluies saisonnières qui ont fait près de 100 000 déplacés.
On observe beaucoup de maisons qui ont été condamnées à l'abandon, beaucoup de biens qui ont été affectés. Il s'agit effectivement d'une véritable catastrophe provoquée par des inondations.
Jean-Marie Sabouchimike, géographe et spécialiste des catastrophes naturelles, fera dans la partie magazine l'état des lieux des zones sinistrées. Après plus d'un mois d'attente, les membres du conseil de transition en Haïti ont été nommés par un arrêté. Ici aux États-Unis, l'administration Biden veut tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Les dirigeants sud-soudanais n'ont pas réussi à respecter les normes nécessaires à la tenue d'élections justes et pacifiques en décembre, a déclaré le Bureau des Affaires africaines du département d'État américain, citant une évaluation des Nations Unies. Nathalie Barge.
Malgré le soutien des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'autorité intergouvernementale pour le développement, le président Salva Kiir, le vice-président Riek Machar et d'autres dirigeants ont échoué à satisfaire aux normes nécessaires à la tenue d'élections justes et pacifiques en décembre prochain, a déclaré le département d'État américain dans un communiqué. Les dirigeants du gouvernement de transition devraient créer les conditions préalables à un processus électoral régulier en protégeant l'espace civique, en s'assurant de la neutralité des forces de sécurité, en renforçant les institutions électorales et en engageant un dialogue pour résoudre les élections en suspens, poursuit le communiqué. S'ils ne prennent pas les mesures préélectorales nécessaires, cela risque d'augmenter la violence dans le pays, estime le département d'État américain, se disant par ailleurs préoccupé par des informations faisant état de violence des droits humains. Le Soudan du Sud devait organiser des élections avant février 2023, mais ce calendrier a été repoussé en août dernier à décembre 2024. Le vice-président Riek Machar a suggéré en mars de les reporter encore. Début avril, le président Salva Kiir a exhorté le Parlement à adopter les lois nécessaires pour les organiser comme convenu. La présidente du Parlement, Djema Nunukumba, a déclaré que les législateurs redoubleraient d'efforts pour garantir que toutes les conditions préalables aux élections soient remplies.
La République centrafricaine et la France ont adopté aujourd'hui une feuille de route en vue de mettre en place un partenariat constructif et relancer leurs relations lors d'une rencontre à Paris entre les présidents Emmanuel Macron et Faustin Archange Touadéra. Cet entretien au palais présidentiel de l'Élysée, le deuxième entre les deux chefs d'État en un peu de plus de 6 mois, vise à mettre fin à une brouille entre les deux pays. Les relations bilatérales se sont fortement dégradées après le rapprochement de Bangui et de la Russie en 2018. Reporters sans frontières a dénoncé ce mercredi l'expulsion brutale et arbitraire d'un journaliste français au Togo, alors qu'il couvrait les tensions politiques liées à l'adoption d'une nouvelle constitution. Thomas Dietrich, c'est de lui qu'il s'agit, a publié sur X une vidéo dans laquelle il qualifiait le régime du président togolais Faure Gnassingbé de dictature qui renforcerait son pouvoir avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Après 24 heures de détention, le journaliste dit avoir été jugé par un tribunal de Lomé et condamné à 6 mois de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction de séjour au Togo et 600 000 francs CFA d'amende avant d'être expulsé vers le Bénin par la route. La première ministre italienne Giorgia Meloni a plaidé pour une nouvelle approche à l'égard de l'Afrique sur le dossier migratoire. Elle l'a fait savoir ce mercredi lors d'une visite en Tunisie, l'un des principaux points de départ de migrants clandestins vers l'Europe. Nani Talani.
Giorgia Meloni a remercié le président tunisien Kais Saied pour le travail que leurs deux pays mènent ensemble dans la lutte contre les trafiquants d'êtres humains. La chef du gouvernement italien s'est engagée à impliquer les organisations internationales pour travailler sur les rapatriements vers les pays d'origine des migrants. Kais Saied a encore martelé son refus que la Tunisie devienne un pays de transit ou d'installation des migrants d'autres pays d'Afrique. La Tunisie ne peut pas accepter une situation d'illégalité sur son territoire, a-t-il ajouté. Pour Rome, il reste fondamental que la Tunisie poursuive sa lutte contre le trafic et la traite d'êtres humains pour contenir les départs illégaux de migrants. La lutte contre l'immigration clandestine nécessite du développement pour les pays africains et des investissements, a souligné Giorgia Meloni. Selon elle, pour encourager en parallèle l'immigration légale, l'Italie prévoit l'octroi de 12 000 permis de séjour à des Tunisiens d'abord formés en Tunisie.
En Ouganda, de nombreux magasins sont restés fermés aujourd'hui dans plusieurs villes au deuxième jour d'un mouvement de contestation des commerçants contre l'instauration d'un système numérique de prélèvement des impôts et des taxes jugées trop élevées. Le ministre d'État chargé des Finances, Haruna Kiyelune Kasolo, estime que ce mouvement résulte d'une mauvaise compréhension du système mis en place. La justice au Kenya a ordonné aujourd'hui aux médecins en grève depuis plus d'un mois pour des revalorisations salariales et de meilleures conditions de travail de parvenir d'ici vendredi à un accord avec le gouvernement. Les 57 hôpitaux publics du Kenya voient leur activité ralentie pour la 5e semaine consécutive par une grève lancée par l'unique syndicat de médecins du pays auquel s'est joint le syndicat des personnels soignants hors infirmiers.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pourparlers sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages se trouvent dans une phase délicate, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani. Il a par ailleurs condamné ce qu'il a décrit comme une politique de punition collective menée par Israël dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le Qatar et l'Égypte mènent depuis plusieurs semaines des discussions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza dévastée par l'offensive israélienne menée en représailles de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre. En Haïti, les 9 membres du Conseil présidentiel de transition ont été nommés par arrêté officiel. Cet organe est censé rétablir l'ordre public et la stabilité dans ce pays en proie à la violence des gangs. Les précisions avec Yacouba Ouedraogo.
L'arrêté publié dans le Moniteur, le journal officiel d'Haïti, donne les noms des 7 membres représentant les principales forces politiques, le secteur privé et 2 observateurs. Il s'agit de Smith Augustin, ancien diplomate, Louis-Gérald Gilles, médecin et ancien sénateur, Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Haïti, Edgar Leblanc-Fils, ancien président du Sénat, Laurent Saint-Cyr, entrepreneur, Emmanuel Vertilaire, avocat et Leslie Voltaire, ancien ministre et diplomate, le pasteur évangélique Frinel Joseph et l'ancienne fonctionnaire de la Banque mondiale Régine Abraham sont nommés membres observateurs sans droit de vote. Le Conseil est censé assurer une transition en douceur lorsque le Premier ministre démissionnaire Ariel Henry va quitter ses fonctions. Sans président ni parlement, Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016. Port-au-Prince est à 80% aux mains des bandes criminelles accusées de différents crimes. L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué la semaine dernière que près de 100 000 personnes ont fui la capitale en un mois pour se mettre à l'abri.
Joe Biden veut tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois, dénonçant une concurrence injuste pour les travailleurs américains. Le point avec Dilly Dico.
La Maison-Blanche a dénoncé mercredi les politiques et subventions de la Chine pour ses industries de l'acier et de l'aluminium. Joe Biden, qui espère être réélu en novembre, appelle sa représentante au commerce à envisager de tripler les droits de douane actuels de 7,5% en moyenne imposés sur une partie de l'acier et de l'aluminium chinois importés aux États-Unis. Joe Biden se rend à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ville au passé industriel, au deuxième jour d'une tournée dans cet état clé pour l'élection présidentielle. Le président démocrate veut convaincre qu'il est le meilleur allié des ouvriers et des syndicats et se rend au siège du syndicat des métallurgistes. L'ancien président Donald Trump tente lui aussi de gagner les voix des cols bleus et se présente comme l'homme de la relance de l'industrie manufacturière américaine. Il a aussi promis d'augmenter largement les droits de douane s'il est élu. L'administration Biden a également annoncé mercredi le lancement d'une enquête sur les pratiques déloyales de la Chine dans les secteurs de la construction navale, du transport maritime et de la logistique. Les syndicats américains dénoncent des politiques chinoises qui sont, selon eux, bien plus agressives et interventionnistes que n'importe quel autre pays.
Et puis la Chambre américaine des représentants va voter samedi sur des textes débloquant des fonds pour l'Ukraine, Israël et Taïwan, indiqué aujourd'hui le chef républicain de l'institution, après des pressions répétées du président Joe Biden. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La croissance économique de l'Égypte devrait atteindre 4,2% en 2025 contre 2,8% cette année, a déclaré le ministère des Finances. Le gouvernement veut vendre davantage d'actifs publics pour réduire le rôle de l'État dans l'économie, permettre au secteur privé d'acquérir davantage de propriétés, augmenter la productivité et générer des revenus pouvant réduire la dette égyptienne. Ici, aux États-Unis, les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté d'environ 3% pour atteindre leur plus bas niveau depuis 3 semaines, mercredi, en raison de prévisions météorologiques douces, d'une forte baisse du gaz d'alimentation des usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et des inquiétudes concernant l'énorme excédent de gaz dans les stockages américains. Pour terminer, le FMI soutient un changement clé lui permettant de prêter à un pays touché par la crise, même si les renégociations sur sa dette avec ses grands créanciers bilatéraux comme la Chine sont encore en cours et même si aucun accord n'a encore été conclu. La seule condition est que le FMI bénéficie de garanties supplémentaires. La proposition vise à réformer ce que le FMI appelle sa politique de prêt sur arriéré officiel.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Débuté jeudi dernier à Rabat au Maroc, la CAN Futsal a désigné ses affiches pour les demi-finales.
Oui, c'est à l'issue des derniers matchs de poule disputés hier dans la poule B, ce vendredi 19 avril, avec le soutien de son public de la salle Ibn Yassine de Rabat. Le Maroc va faire face à la Libye qui fait preuve de beaucoup de détermination dans cette compétition. Dans l'autre demi-finale, l'Égypte, tenante du titre, et l'Angola qui veut créer la surprise vont se disputer une place en finale. Les finalistes et l'équipe classée troisième vont représenter l'Afrique au Mondial de futsal prévu en Ouzbékistan du 14 septembre au 6 octobre prochain.
Suite et fin des matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Tout reste ouvert lors du match retour à l'Etihad Stadium entre Manchester City et le Real Madrid. Après le score de 3-0 à l'aller au Bernabeu, le vainqueur de ce nouveau classique d'Europe va affronter soit le Bayern ou Arsenal. Ces derniers jouent leur match retour ce soir à Munich. Le Bayern est rentré de Londres la semaine passée avec un score de 2-0. Hier, le PSG et Dortmund se sont qualifiés pour les demi-finales. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-1 à Barcelone après sa défaite 2-3 à l'aller. En demi-finale, les Parisiens vont faire face à Dortmund. Au terme d'un match complètement fou, le Borussia s'est qualifié en s'imposant 4-2 contre l'Atlético Madrid pour se hisser pour la première fois depuis 2013 dans le dernier carré de la Ligue des Champions.
Ici en NBA, LeBron James et les Lakers sont en play-off.
LeBron James continue de prouver que l'âge n'est pas un écueil avec sa victoire face à la Nouvelle-Orléans, 110-106. Le King, âgé de 39, a inscrit 23 points, pris 9 rebonds et délivré 9 passes pour se qualifier pour ses 17e play-off en 21 saisons NBA. Les Lakers vont affronter dès samedi au premier tour le champion en titre Denver qui les avait balayés l'an passé en finale à l'Ouest 4-0. Pas de play-off par contre pour Stephen Curry. Les Golden State Warriors ont achevé une piteuse saison par une défaite éliminatoire en barrage sur le terrain des Sacramento Kings 118-94. En grande difficulté, le champion 2022 a laissé l'impression d'une équipe sur le déclin à l'issue d'une saison ratée et endeuillée. Loin de ses 4 titres ces 10 dernières années, Golden State a semblé payer hier soir une saison noire marquée par le décès mi-janvier de l'entraîneur assistant d'Iran Milutinović lors d'un déplacement de l'équipe à Salt Lake City.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Burundi est frappé par des aléas climatiques tels que des glissements de terrain, des vents violents, la grêle et la montée des eaux du lac Tanganyika. Les fortes pluies d'El Niño provoquent des inondations graves dans la capitale économique Bujumbura, affectant des centaines de milliers de personnes et détruisant plus de 40 000 hectares de culture, selon le ministère de l'Intérieur. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Bujumbura le professeur Jean-Barry Sabouchimike, géographe et spécialiste des catastrophes naturelles.
Le niveau des eaux du lac Tanganyika a très considérablement augmenté cette année. Elisabou l'avait annoncé depuis le mois de septembre dernier. Comme on le dit en termes de catastrophe, on observe des perturbations graves, disons, sur l'ensemble du littoral du lac Tanganyika et plus particulièrement la zone Gatumba, le quartier Kajaga, le quartier Kinindo, Kiwenga. On observe beaucoup de maisons qui ont été condamnées à l'abandon, beaucoup de biens qui ont été affectés, des infrastructures de l'État mal de fonctionnement. Il s'agit effectivement d'une véritable catastrophe provoquée par des inondations sur le littoral du lac Tanganyika.
Il y en a qui disent que même l'aéroport de Bujumbura pourrait être atteint.
Mais pour le moment, l'aéroport n'est pas encore affecté.
Et quelles sont les causes de cette situation?
Il faut que des mesures préventives soient prêtes pour protéger l'aéroport. C'est-à-dire qu'il faut apprêter des machines pour la canalisation des eaux, des cours d'eau qui menaceraient de... Mais ce n'est pas le lac, c'est pas le lac qui menace quand même l'aéroport. Ce sont plutôt les déviations des cours d'eau qui peuvent inonder l'aéroport international de Bujumbura.
Quelles sont les causes justement de cette situation?
La cause fondamentale, j'appelle ça le facteur déclencheur, ce sont les changements climatiques qu'on observe dans la sous-région. Ces fortes pluies ne concernent pas seulement le Burundi, ce n'est pas seulement sur le bassin du lac Tanganyika, c'est sur l'ensemble de la sous-région. Ça, il faut que les gens le sachent. Seulement, si on revient sur le bassin du lac Tanganyika à côté burundais, qui nous intéresse, qui nous alerte aujourd'hui, il faut reconnaître des prédispositions naturelles. Sur la crête congolaise et les miroirs, les contreforts des miroirs, on observe de fortes pluies régulières qui s'abattent sur ces montagnes avec un très fort coefficient de ruissellement dans les vallées et ravins qui conduisent des quantités énormes dans le lac.
Jean-Marie Sabouchimike, géographe et spécialiste des catastrophes naturelles.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Jugé à Dakar pour séjour irrégulier au Sénégal, le célèbre blogueur guinéen Djibril Adil Sylla reste en prison en attendant le délibéré de son procès prévu le 23 avril prochain. Djibril Adil Sylla avait fait l'objet d'une plainte de la part du puissant homme d'affaires guinéen Ker Fala Camara pour diffamation avant d'être poursuivi à la même occasion pour séjour irrégulier au Sénégal. Son avocat, Maître Amadou Ali Khan, demande qu'il soit relaxé. Yacouba Ouedraogo l'adjoint à Dakar.
M. Djibril Adil Sylla, qui est un blogueur guinéen très connu, avait fait l'objet d'une plainte de la part d'un célèbre homme d'affaires guinéen dénommé KPC, Ker Fala Parson Camara, pour diffamation et injure publique. Il a été entendu sur cette plainte et en cours d'enquête, le ministère public sénégalais a ouvert une enquête parallèle sur les conditions d'entrée et de séjour donc de M. Djibril Adil Sylla ici au Sénégal. Et finalement, la plainte de M. Karsala Tassian Kamara n'a pas eu de suite au niveau du procureur et c'est finalement la procédure pour séjour irrégulier qui a été retenue par ce dernier et pour cette procédure, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt. Il est passé en jugement hier.
Dans quelles conditions justement Djibril Agil Sylla se retrouve en séjour irrégulier au Sénégal? Selon ce pourquoi il est poursuivi.
Mais il faut savoir qu'on lui reproche une infraction impossible. Parce que le Sénégal et la Guinée font partie de la CEDEAO. Et le traité révisé de la CEDEAO de 1993, en son article 59, il accorde le droit de résidence et d'établissement à chaque citoyen d'un État membre dans les différents États membres. Un citoyen guinéen peut résider au Sénégal, s'y établir librement. C'est un droit donc que le traité met à sa disposition. Inversement également, un citoyen sénégalais peut résider et s'établir en Guinée. Donc, par conséquent, on ne peut pas poursuivre un citoyen d'un État membre de la CEDEAO dans un autre État membre de la CEDEAO pour le délit de séjour irrégulier parce que le principe, c'est la libre circulation des biens et des personnes.
D'aucuns disent que Djibril Agil Sylla, étant un critique du pouvoir de Conakry sur les réseaux sociaux, c'est en quelque sorte ce pourquoi il est menacé d'expulsion ou d'extradition vers la Guinée. Est-ce votre avis?
Effectivement, son arrestation pose question. Puisque j'ai expliqué qu'on est parti d'une plainte d'un homme d'affaires pour diffamation et injure publique, plainte qui sera finalement laissée de côté pour aboutir à des poursuites initiées par le ministère public pour séjour irrégulier, donc pour un délit qui n'est pas prévu par la législation sénégalaise pour un résultat à la CEDEAO. Donc on se demande, mais pourquoi se donner tant de peine? Pourquoi arrêter quelqu'un, le poursuivre pour un délit qui n'existe pas? Et alors que ce n'était pas pour ce motif que la justice l'avait convoqué. On l'avait convoqué pour diffamation et injure publique. Donc personne ne comprend. Donc pourquoi je dis son arrestation et ce chef-là du chef de l'église et les poursuites contre sa personne posent question. Parce que ça n'a pas de sens. On ne comprend pas. Effectivement, ceux qui disent que peut-être il y a une conversation politique.
Maître Amadou Ali Khan, avocat du blogueur guinéen Djibril Agil Sylla.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La crise sécuritaire qui touche le Burkina Faso a fait plusieurs veuves et orphelins dans les familles des forces combattantes. Ce sont très souvent des personnes abandonnées qui croupissent sous les difficultés financières après la mort de leurs conjoints ou parents. À Ouagadougou, un centre de formation a décidé de leur donner la chance de suivre gratuitement des formations afin de devenir autonomes et subvenir à leurs besoins. Des détails dans ce reportage d'un de nos correspondants au Burkina, Gilles Dasda.
On a souvent commencé par le...
Attention fixée sur les explications du formateur, Lucie Toé, veuve d'un agent des eaux et forêts, apprend les rudiments du métier de plombier. Dans cette salle de classe du centre de formation au métier CFPM à Ouaga, une bonne partie des étudiants comme elle est constituée de veuves d'orphelins des forces de défense et de sécurité tombées au front. Ici, on suit gratuitement une formation en plomberie.
Au début, je me suis dit que ce n'est pas un métier de femme, mais je me suis dit que rien n'est possible à Dieu, que je vais essayer pour pouvoir subvenir aux besoins de mes deux enfants. Je pense que cette formation va pouvoir beaucoup m'aider à nourrir mes enfants, à les scolariser.
Assise au fond de la salle, Micheline Kabori, fille d'un gendarme tombé dans la guerre contre le terrorisme, nourrit aussi ce vœu. Maîtriser les ficelles de la plomberie, un métier pour lequel elle a déjà de l'attachement.
Oui, j'ai appris la plomberie. Au fait, c'est un métier que j'aime beaucoup. J'ai l'amour de ça. Donc, j'ai mis tous mes efforts sur ça pour mieux apprendre.
Le cours du jour, dispensé par Aloïse Yamehongo, ingénieur en plomberie, est bien assimilé.
La formation se passe très bien parce qu'ils suivent bien, ils sont volontaires. Et je pense que c'est ça la réalité aussi de la formation.
Au-delà de la plomberie, Joachim Ima, fondateur du centre, a décidé d'offrir d'autres formations dans des secteurs jugés porteurs, comme le carrelage, l'énergie photovoltaïque, la maçonnerie ou la mécanique aux veuves et enfants des combattants burkinabés tombés au combat.
Nous avons évidemment jugé bon qu'il est très important pour nous, en tant que structure de formation professionnelle, d'accompagner à notre manière, bien sûr, cette France-là de personnes, afin qu'ils puissent évidemment avoir une formation professionnelle qui pourra les permettre de pouvoir évidemment s'insérer dans le tissu économique
C'est en début d'année 2024 que Joachim Ima a lancé cette idée avec pour objectif d'aider les services sociaux des armées. La formation est gratuite, mais le centre lui dépense de l'argent pour que l'apprentissage se passe dans les meilleures conditions.
La formation, elle est d'abord théorique et après, il y a la pratique. Quand vous regardez la matière d'œuvre, même pour 30 personnes, c'est pas aussi dur. Et si vous regardez, si l'on doit facturer par personne durant un mois de formation, vous voyez que vous le trouvez facilement avec 9 millions.
Au total, 150 veuves orphelins seront formés dans plusieurs localités du pays. L'objectif étant d'amener ces personnes à compter sur elles-mêmes. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique.
Israël réfléchit à la manière de répondre aux attaques de missiles et de drones menées par l'Iran le week-end dernier, alors que les États-Unis et leurs alliés exhortent le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou à ne pas provoquer d'escalade et à ne pas risquer de déclencher un conflit régional plus large. Les détails avec Patsy Widakuswara, le récit est de Ginny Niwa.
Mardi, Israël a montré ce qu'il dit être un missile balistique. Il a intercepté samedi l'un des centaines de missiles et de drones lancés par l'Iran, sa première attaque directe contre Israël depuis le sol iranien. L'Iran a déclaré que l'attaque était une réponse à une frappe israélienne sur son bâtiment diplomatique en Syrie au début du mois. Israël a promis de riposter, comme l'a dit Herzi Halevi, chef de l'armée israélienne.
L'Iran devra faire face aux conséquences de ses actes. Nous choisirons notre réponse en conséquence.
Israël n'a signalé que des dommages mineurs après avoir intercepté plus de 300 missiles et drones iraniens avec l'aide des États-Unis et d'alliés régionaux. Cela suggère que la frappe de l'Iran pourrait avoir été calibrée pour limiter les pertes. Des analystes affirment que la contre-attaque israélienne visera probablement le sol iranien sans tuer de civils. Écoutons Jonathan Reynolds, directeur du département d'études politiques de l'université israélienne Bar-Ilan, joint via Zoom.
Et si cette cible n'était pas symbolique d'un point de vue politique, cela pourrait embarrasser le régime et lui donner l'impression qu'il est nécessaire de poursuivre l'escalade. Toutes ces manœuvres sont très, très soigneusement calculées et pourraient facilement mal tourner.
Israël pourrait également opter pour des opérations secrètes visant des responsables iraniens ou des cyberattaques comme le logiciel malveillant Stuxnet de 2010. Grégory Hatcher, du cabinet de conseil en cybersécurité White Knight Labs, via Zoom.
Ils ont créé un virus, puis l'ont injecté dans une installation nucléaire iranienne et en fait tourner les centrifugeuses de manière incontrôlée, faisant perdre des millions de dollars et ralentissant les capacités nucléaires de l'Iran.
Quelle que soit l'option choisie par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président Joe Biden lui a dit que les États-Unis ne participeraient pas à la contre-attaque d'Israël et l'a exhorté à la désescalade. John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale.
Nous ne voulons pas d'une guerre avec l'Iran. Nous ne voulons pas d'un conflit régional plus large.
Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain.
Je m'attends à ce que nous prenions des sanctions supplémentaires contre l'Iran dans les prochains jours.
Entre-temps, Netanyahou est confronté à la pression intérieure et à la condamnation internationale sur la guerre à Gaza. Certains l'accusent d'escalade intentionnelle avec l'Iran, notamment Ayman Safadi, le ministre des Affaires étrangères de Jordanie, un allié des États-Unis qui a aidé à protéger Israël des attaques de Téhéran.
Ce n'est un secret pour personne que la politique du Premier ministre israélien vise à étendre le conflit afin d'alléger la pression croissante qui pèse sur lui au niveau mondial en raison des tueries, de la guerre et des destructions qu'il commet à Gaza.
D'autres dirigeants ont fait écho aux appels à la retenue. Il n'est pas certain que Netanyahou en tienne compte. Barbara Slevin, chercheuse au Stimson Center, nous a parlé via Skype.
Il a toujours voulu attaquer l'Iran, en particulier les sites nucléaires iraniens. Il pourrait y voir sa dernière chance de vaincre tous les ennemis d'Israël, le Hezbollah et l'Iran.
Netanyahou a de nouveau juré mardi qu'il défendrait Israël contre l'Iran et ses supplétifs.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.